Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Laura Ballester. De ses débuts déterminés à Sciences Po, à sa transition vers le droit humain et le féminisme, Laura incarne la fusion de la passion, du professionnalisme et des valeurs personnelles. Elle nous partagera son parcours dans des cabinets d'avocats renommés et surtout son audacieux virage entrepreneurial en fondant son propre cabinet. Préparez-vous à une conversation riche en enseignements et en inspiration. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Agathe Curis et Laura Ballester.
Hello Laura!
Salut!
Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Laura, nous on se connaît un petit peu parce que tu avais suivi une formation chez Anomia Il y a quelques temps maintenant,
ouais.
Depuis, t'as fait pas mal de chemin, tu vas nous raconter tout ça. Et moi, j'avais particulièrement envie d'échanger avec toi aujourd'hui, puisque je trouve que t'as un parcours qui change un petit peu. Tu mets en avant aussi pas mal de tes valeurs dans ta pratique quotidienne, tu vas nous raconter tout ça. Voilà. Donc, avant toute chose... Est-ce que avocate, c'était une vocation ?
Alors oui et non. Ma grand-mère te dirait que oui. Elle m'a offert quand j'étais au lycée une petite statuette d'avocat, persuadée que je deviendrais avocate et elle a eu raison.
Alors, ah, c'est marrant. Elle l'avait senti, toi, ouais. Tu ne le savais toujours pas.
Je l'ai encore sur mon bureau aujourd'hui.
Parce que t'étais l'adolescente toujours à vouloir défendre tout le monde.
D'aucuns diraient insolente. C'était sur mes bulletins. Ça a failli me coûter ma place à Sciences Po d'ailleurs. Mais ouais, j'étais très vindicative. Beaucoup de, je sais pas si c'est de la rage, mais en tout cas beaucoup de principes à faire valoir, toujours celle qui allait expliquer aux profs ce qui était normal, pas normal, à me battre parce qu'on nous faisait porter des sacs trop lourds, enfin ce genre de truc au lycée.
Et, ah oui, on devait porter nos livres. C'est vrai que c'est fou ça.
J'avais, je m'en rappelle encore, cette prof d'histoire qui avait décidé en première que comme elle ne savait pas le programme qu'elle ferait du jour au lendemain, il fallait venir tous les jours avec le bouquin d'histoire, de géo et d'éducation civique. Et je me souviens m'être engueulée avec elle dès le début en lui expliquant que ce n'était pas possible. Et ça avait duré toute l'année. Enfin bref, toujours un peu dans ses combats, pas toujours très constructifs, mais depuis toujours. Ma grand-mère, ma famille me voyait bien avocate. Moi, je ne savais pas trop. Admission post-bac, ça a été un enfer pour moi.
Parce que t'hésitais entre plein de...
Ouais. Je voulais faire couturière, je voulais faire avocate, j'hésitais peut-être à faire médecin.
J'ai mon admission. T'avais fait quoi, toi? T'avais fait S, du coup?
J'avais fait une S, alors que je détestais les maths et la physique, toujours à vouloir faire le bon parcours.
Oui, bah ça, classique.
Donc, déjà, le lycée, c'était pas hyper intéressant pour moi. Admission post-bac, il y avait une dizaine de choix à faire. Je me souviens avoir tout rempli. En me disant jusqu'au dernier moment, comme ça je peux changer l'ordre, je peux remettre un truc en premier, infernal.
Et alors t'avais mis quoi en premier?
Je crois que j'avais mis la fac de droit en premier. Au milieu de plein de trucs qui n'avaient rien à voir, j'avais mis la fac de droit en premier, un truc espagnol, français, parce que j'étais quand même très langue à l'époque aussi, je voulais faire interprète, j'adorais le chinois, toute ma famille est espagnole,
très curieuse et du coup du mal à choisir, quoi.
Super dur. Finalement, j'ai fait aucun de ces choix-là, puisque par le hasard des choses, j'ai eu une bonne note au bac qui a fait qu'un ami de ma mère m'a appelé à ce moment-là en me disant, avec une note pareille, tu peux tenter Sciences Po.
Mais du coup, il fallait passer un concours.
Non, justement, j'étais même pas inscrite au concours, moi.
Ah, à partir d'une certaine note au bac, tu peux postuler à Sciences Po sans...
Okay. Ouais, je crois que ça a changé aujourd'hui. À l'époque,
Sciences Po Paris, du coup.
Ouais. Ok. À l'époque, moi, c'était un truc que j'avais pas envisagé. De là où je viens, Sciences Po, c'est pas forcément une voie naturelle, donc j'avais pas du tout envisagé ça. C'était plutôt la fac. Et il y a cet ami de ma mère qui m'appelle, qui me dit que ça se tente sur mention très bien.
Ok.
Moi, Sciences Po Paris, surtout, je me disais mais jamais de la vie aller à Paris.
T'as grandi où, toi?
Saint-Étienne.
Ok. Autre ambiance.
Donc vraiment Paris, pour moi, c'était tétanisant. J'imaginais vraiment le profil un peu fils d'eux, très bourgeois, donc impossible. Et là, il me dit, argument massue, il y a des campus délocalisés de Sciences Po Paris et il y a le campus asiatique où on peut faire du chinois. Donc là, je commence à m'y intéresser, à me dire, ah, mais attends, j'adore le chinois. Je voulais être interprète de chinois pendant super longtemps, donc je me retrouve à regarder. Je me rends compte qu'en effet, il y a un campus Europe-Asie exclusivement dédié à l'Asie.
Et tu peux faire tout ton cursus là-bas?
Non, okay. Master forcément à Paris. Okay. Mais en tout cas, les deux premières années se font, pour moi, c'était au Havre, du coup, où on fait que du chinois, de l'histoire de la Chine, enfin de l'Asie.
Ah d'accord, c'est campus Asie, mais c'est au Havre.
Oui, c'est vrai, exactement.
C'est en Chine.
Et voilà, figure-toi que la troisième année est en Chine, okay. Ça a été ça ce qui m'a décidé. C'est que moi qui aimais beaucoup voyager. Là,
c'est moins sexy.
Alors après, venant de Saint-Étienne, je t'avoue que j'étais pas dépaysée. Mais ouais, troisième année, possiblement en Chine, à faire un peu ce qu'on voulait. Donc là, pour le coup, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est trop bien. Donc je tente ce truc. J'étais à deux jours de la deadline pour postuler, donc vraiment un peu en panique. Je tente le truc. Et voilà, et finalement, ça marche. Et je suis retournée finalement à l'avocature en master. Donc finalement, je suis retombée sur mes pattes, mais ouais.
Et alors justement, ces années à Sciences Po, ton expérience en Chine et tout, raconte-nous un peu.
C'était trop bien. Sur le coup, toujours pareil, très vindicative, plein de choses qui
n'allaient
pas.
T'étais dans tous les assauts d'engagement politique ou machin,
non? Même pas. Non, parce que j'avais mon copain qui était encore à Saint-Étienne, j'avais envie de rentrer tous les week-ends. Donc je m'étais pas beaucoup investie dans tout ce qui était assaut. En tout cas, je lidais pas des assauts. Je participais à beaucoup d'entre elles. Je faisais de la danse Bollywood, je faisais pop-up girl, ce genre de trucs. Mais peu d'assauts politiques. J'étais assez peu politisée à l'époque.
Ok.
Très féministe, toujours très féministe. J'ai toujours été la féministe de principe dans tous les groupes, y compris familiaux, mais très peu politisée, okay, pour le coup.
Et quelle vision du féminisme? Oh là là. Non mais parce qu'en vrai, féministe, finalement, il y a quand même pas mal de personnes qui se revendiquent féministes à juste titre, mais au sein même de ces personnes, il peut y avoir des visions assez différentes. Donc toi, t'es dans quelle branche?
Moi, à l'époque, c'était vraiment... c'était très épidermique, c'était vraiment inconcevable qu'on puisse me dire qu'une femme devait faire ci, un homme devait faire ça, qu'on m'explique quoi faire en tant que femme. Tout ce qui était violence de genre, violence sexuelle, c'était vraiment des choses qui étaient assez épidermiques chez moi, donc vraiment qui pouvaient assez vite me faire partir. En revanche, tout ce qui était inégalité de salaire, tout ce qui sont aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup, les violences gynéco, aussi les modèles qu'on va avoir en tant que femme quand on est petite, sur la pub, sur les modèles professionnels, ça m'intéressait moins parce que c'était beaucoup plus politique, entre guillemets, j'étais pas confrontée. Donc c'était beaucoup plus du féminisme de terrain,
okay.
Ce qui est aujourd'hui un peu moins le cas parce que je me suis politisée un peu. Mais à l'époque, voilà, ça m'intéressait pas trop. J'étais dans des assos, enfin, je découvrais vraiment le monde associatif étudiant. Moi, j'étais boursière en plus, donc j'avais ce truc d'arriver dans un milieu où tu te demandes un peu si t'as ta place.
Et alors, ça a été ? T'as trouvé ta place ou c'était compliqué ?
C'était, franchement, c'était trop bien. Je me suis fait des amis vraiment pour la vie qui venaient de milieux très différents, pour le coup.
Finalement, c'était pas tant ce que t'imaginais. C'était peut-être un peu plus varié que ce que t'imaginais.
Sûrement grâce au campus aussi, le campus délocalisé. C'était moins parisien, beaucoup d'expats. C'était uniquement anglo-saxon. Tous les cours étaient en anglais. Beaucoup, beaucoup d'étrangers, beaucoup plus que de français. Donc, ça...
Peut-être un peu plus ouvert.
Ouais, ça mélange carrément les cartes, pour le coup. Ça m'a forcé à parler anglais. Rétrospectivement, c'était vraiment génial. Ça m'a libérée de plein de choses. Ça m'a forcé à parler anglais. Ça m'a forcé à oser prendre la parole en public. Parce que, pour le coup, Sciences Po, c'est beaucoup ça. Autant sur le fond, on parle un peu de tout, on apprend un peu tout. C'est beaucoup de culture G. C'est pas forcément très... structurant les premières années, mais en termes de prise de parole en public, de confiance en soi, moi, ça m'a vraiment donné beaucoup de courage. Ce qui me sert aujourd'hui beaucoup, notamment en plaidoirie, je me rendais compte à l'UFB que beaucoup d'étudiants n'avaient pas trop l'habitude de parler, de faire des fausses plaides devant tout le monde.
Ah bah ouais, en fac de droit, c'est la gata. Hein.
On n'est pas formé.
J'ai fait 5 ans de droit, je pense qu'en 5 ans de droit, j'ai fait 2 exposés.
C'est ça. Et en fait, c'est vrai que pour le droit, c'est quand même hyper important d'oser parler... Donc ouais, ça, pour clair. Le coup, ouais, hyper structurant, l'année à l'étranger, incroyable. Alors, pas du tout juridique. J'avais essayé de faire un peu de droit des femmes là-bas, mais bon, c'est quand même très verrouillé, la Chine.
Ouais.
Donc, très compliqué de se mettre dans ce genre de milieu. J'avais fait un peu d'interprétariat pour une asso, un peu droit des femmes, mais ça restait de la traduction, quoi. C'était pas du droit. Mais d'un point de vue perso, j'avais adoré, pour le coup. Trop bien.
C'était où, en Chine ?
À Pékin.
Ok.
Un an à Pékin.
Très bien. Et donc, tu fais... Donc ça, c'était ta troisième année de licence.
Ouais.
Et ensuite, tu rentres à Paris pour le master, ça ?
C'est ça.
Enfin, tu rentres... Non, d'ailleurs, tu t'installes à Paris pour la première fois.
Ouais. La tétanie qui revient. Alors après, le passage à Pékin m'a aidé quand même, parce que c'est tellement une énorme ville et j'avais quand même déjà un peu testé Sciences Po. Donc, j'y allais avec des amis, j'y allais plus seule. Donc, c'était quand même plus... moins stressant. À nouveau, le casse-tête de savoir ce que je fais en master. Toujours ce
tu devais choisir un M1 ?
Je devais choisir un M1.
Okay.
Donc, fin 3, on doit décider où on va. Et Sciences Po, tu peux faire, pas tout, mais tu peux faire beaucoup de choses en master. Il y a beaucoup de masters possibles. Il y a cette école des affaires internationales qui me plaisait trop, moi, avec beaucoup de trucs de droits humains, un peu de droits des femmes, développement international, donc vraiment ce qui me parlait. Mais ce qui est surnommé en interne à Sciences Po, le master chômage, parce que bah, ça, ça mène à pas grand-chose. Enfin, c'est tellement... vaste que...
Oui, il faut travailler soit à l'ONU...
C'est ça. Et l'ONU, il y a peu de place. Et,
ouais.
Moi, ça me faisait rêver. Et en même temps, je ne connaissais pas. Alors, j'aime pas dire ça, mais en vrai, ce genre de milieu ONU, etc., il faut avoir des contacts quand même. Tu ne rentres pas comme ça, sans contact, sans stage. C'est très compliqué. Et donc, ça me faisait un peu peur. J'hésitais à faire de la com. Je me disais, la com, c'est parfait. Tu rentres dans des assos... bref, je me suis inscrite à 3 masters différents, j'ai changé d'avis encore 40 fois.
Encore une fois.
Ah ouais, ouais.
Admission post-bac.
Encore une fois, un enfer. Et finalement, je suis partie sur le droit. Et je pense que j'ai bien fait. Enfin, vraiment, pour le coup, rétrospectivement, c'est ce qu'on appelle des hardcore skills. C'est vraiment des trucs qui te servent après pour rentrer dans plein de trucs. Donc sans regret.
Donc le M1 à Sciences Po en droit, c'est droit privé, droit public, droit général. Enfin, c'est quoi ?
C'est droit privé, principalement droit privé, très généraliste, très axé. Alors,
t'avais déjà une bonne base ou pas ? Il y en a beaucoup pendant la licence ? Non, il y en a pas du tout pendant la licence ?
J'avais fait du droit humain licence concrètement, c'était droit de l'environnement. On avait fait un peu, mais c'était une option. Hein, j'étais pas obligée de le faire.
Ouais.
Moi, j'avais fait droit de l'environnement un peu et un module de droit des femmes.
Ok.
Mais c'est tout. Donc vraiment aucune base. Et le M1 est fait pour des gens qui n'ont aucune base, concrètement. Donc, pour le coup, très intense. On a dû rattraper beaucoup de choses qu'on fait à la fac, pas tout. Il y a beaucoup de matières que j'ai jamais faites. Droit de la famille, droit du travail, on n'en fait pas. L'histoire du droit, on le fait pas.
Ok.
Commentaire d'arrêt, on fait pas. On fait, c'est très pratique en fait. C'est vraiment qu'est-ce que fait un avocat? L'avocat fait pas de commentaire d'arrêt concrètement.
Bah ouais. Du coup, c'est peut-être ce qui manque un peu à la fac de droit finalement. La fac de droit devrait s'en inspirer sur certains plans.
Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a pas manqué en stage de pas avoir fait la fac. En revanche, vraiment apprendre à lire un arrêt, ça on l'a fait. Très axé, moi, pour mon master 2 contentieux. Donc pour le coup, lire des arrêts. Écrire des conclusions, faire des fausses plaidoiries, mais avec un choix de matière déjà décidé dès le début. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut le faire en 2 ans et pas en 5 comme à la fac, c'est qu'il y a beaucoup de matières qu'on voit pas.
Ouais, et donc du coup, toi, t'avais choisi quoi comme matière?
Moi, contentieux et arbitrage, donc vraiment procédure civile beaucoup, droit des contrats. Sciences Po, c'est quand même très droit des affaires. On te pousse à faire du droit des affaires et on te dirige vers les gros cabinets. Concrètement. Donc, de toute façon, droit de la famille, on n'en fait pas, ce genre de choses.
C'est dommage, c'est sympa le droit de la famille.
Bah, moi, finalement, c'est du droit du travail. Ce que j'avais jamais fait.
Oui, oui, t'en avais jamais fait.
Donc, ça n'empêche pas. Mais concrètement, ouais, on est quand même très poussé vers un genre de cabinet. Donc, voilà, moi, j'étais quand même le moins droit des affaires de tous les masters, je pense. Mais quand même très axé, ouais, contrat et plutôt gros cabinet.
Ok, donc dès ton M1 en droit. Tu te dis que tu veux être avocate, là, c'est là où la petite idée, où la petite statuette offerte par ta grand-mère commence à prendre tout son sens.
Oui, oui, oui. Là, c'est bon. Là, j'étais partie pour être avocate. Et la question était plutôt qu'est-ce que je fais comme matière. Donc, bon, les cours aident.
Du coup, tu as passé le barreau à l'issue de ton M2
M2, ouais, ouais. Okay. Pour le coup, nous, on ne peut pas le passer en M1. Pour le
d'accord.
Coup,
on a oui, parce qu'en fait, vous avez juste un an.
On
ne
peut pas. Oui. On n'a pas les compétences pour. Donc, clairement, on ne le passe pas en M1. Je ne sais pas si légalement, on pourrait le faire. En tout cas. En tout cas, la question
c'est un peu
posée.
Un mauvais calcul.
Bah, oui. Il n'était pas question de partir en M1 avec mon année de droit. Donc non, j'avais 2 ans pour réfléchir. M1, on voit quand même pas mal de matières. Moi, j'étais assez peu inspirée par le droit des affaires. Tout ce qui était M&A, ça m'inspirait assez peu. Pays, ça m'intéressait un peu. Pénal, ça m'intéressait.
Ouais, bah, coup, forcément.
J'avais ce truc un peu...
C'est défendre les opprimés.
Bah, voilà. Pénal, ça m'intéressait. Et j'ai eu cette prof qui m'a dit, je m'en rappellerai toujours... j'étais allée la voir à la fin d'un cours pour voir un peu comment c'était possible de faire du pénal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et elle m'avait dit franchement en tant que femme c'est compliqué, tu passes beaucoup de temps dans les prisons, tu te fais pas respecter, un peu désabusée, et elle m'a un peu découragée de faire du pénal, peut-être à raison, hein, j'en sais rien, mais ça a un peu pareil mélangé un peu les cartes, où je me suis dit mince, si je fais pas du pénal qu'est-ce que je fais, et toujours cette envie comme au lycée de faire les choses bien, de faire les trucs prestigieux. Et voilà, comme on te dirige un peu vers les gros câbles, je me suis dit, bon, bah mince, qu'est-ce que je vais faire comme matière qui me dirige vers les gros câbles, qui soit bien vue. Et donc, c'est parti vers le droit de la concurrence, vraiment par hasard.
Ok, mais du coup, tu t'es formée en droit de la concurrence à quel moment particulièrement?
Entre le M1 et le M2.
Ok. C'était ton stage, ton... Ok.
Ouais, on a eu un cours en M1 qui m'a vraiment plu pour le coup. Bah, c'était le moins juridique de tous presque, en fait. C'était très terre-à-terre, c'était vraiment...
C'est économique.
Exactement, la concurrence, ça va être pourquoi Badoit n'est pas concurrent de Coca, mais pourquoi on va considérer que c'est concurrent de Fanta, des décisions, des réflexions sur ce que le consommateur souhaite. Enfin, voilà, c'est quand même très terre-à-terre. Ça m'a bien plu. Entre le M1 et le M2, j'ai fait un premier stage chez LATAM, qui est un cabinet américain.
Ouais.
Pour voir si ça me plaisait. Donc, j'ai fait un stage de 2-3 mois. Et pour le coup, ça m'a vraiment plu. C'était équipe super sympa. Ça a vraiment bien marché. Donc, voilà, je suis arrivée en M2 en me disant, bon, bah, pourquoi pas la concurrence? J'aime bien le contentieux. C'est une des rares matières en droit des affaires qui permet de faire du contentieux. Donc, un peu par défaut, mais aussi par envie. Et je me suis dit, bah, voilà, ça serait un bon entre-deux entre ce que moi, j'ai envie de faire fondamentalement, qui est le droit des femmes, le contentieux et le droit des affaires vers lequel on me pousse et vers lequel on me dirige parce qu'on se dit que c'est le plus prestigieux. Donc, c'est vers là que je m'oriente pour le M2, finalement.
Ok. Donc, à l'issue du M2, concours, enfin, examen pour entrer à l'école du barreau, tu fais quoi comme PPI?
PPI, j'ai fait Ligue des droits de l'homme.
Ok.
Parce qu'on se refait pas, donc Ligue des droits de l'homme, rien à voir. j'ai dû me découper en 2 mon PPI parce que Ligue des droits de l'homme, ils payent pas leurs stagiaires, ils ont pas les moyens. Donc, il faut que ce soit 2 mois, max. Et le PPI, c'est 6 mois. Donc, j'ai fait 2 mois de Ligue des droits de l'homme et j'ai fait 4 mois au tribunal de commerce.
D'accord.
Et sachant qu'après avoir passé mon barreau, j'ai voulu prendre une année de césure.
Ok.
Donc, avant le PPI, j'avais fait 1 an, 6 mois de voyage et 6 mois de stage.
Ok.
Donc, 6 mois de stage en droit de la concurrence. En grosse structure à nouveau, Cleary cette fois-ci. Et plus petite structure, un petit cabinet qui s'appelait Gate, d'un ancien de Cléry pour voir un peu à quoi ça ressemblait les plus petites structures. Donc, voilà.
Et alors ?
Bon, ça m'a plu. Les deux m'ont plu. Cléry, c'était dur, mais comme tous les gros cabs, en termes d'horaire, c'était dur. Après, équipe trop bien, j'ai vraiment bien aimé. Petit cabinet, super bien aussi. Beau dossier, beaucoup plus de contentieux, donc ça me plaisait aussi bien. Et bon contact.
T'avais la sensation d'être aussi bien accompagnée et formée dans un gros cab et un petit cab. Est-ce qu'il y a des différences là-dessus ? Parce que je suppose que dans un petit cab, tu interagis davantage, peut-être avec les associés. Peut-être que je me trompe totalement.
Ouais, alors après, je sais pas si c'est propre, si j'ai eu de la chance chez Latam ou chez Cléry, mais assez présent pour le coup, les associés.
Okay.
Très, ce qu'on appelle hands-on sur le dossier pour le coup, à bien suivre ce qu'on fait. Un peu, ouais, dans certains cas, mais pour le coup, assez formé, assez suivi. Pareil dans la petite structure où j'ai été. Donc ça, pour le coup, j'avais pas à m'en plaindre. Les deux m'ont assez inspiré. Donc, ouais, après le PPI, la question du stage final. Assez naturellement, je me suis dit, allez, on commence par un gros cab, c'est ce qu'il faut faire. On voit après si on réduit l'entonnoir vers des plus petites structures.
Ouais,
bah,
toujours
commences.
Ce truc de on choisit la meilleure voie, on fait ouais. S, on fait droit exactement. Des affaires, on fait gros cab pour
exactement.
Se laisser le max de possibilités ouvertes.
Exactement.
Je connais bien ça.
J'étais complètement dans ce schéma-là avec lequel j'ai rompu après, mais ouais, donc pareil, gros cab.
Du coup, t'es chez qui ton stage final?
Je suis allée chez Latam, je suis retournée chez Latam.
T'es retournée dans la même équipe ?
Ouais, pour le coup, Latam, j'avais fait 3 mois de stage donc chez eux. J'avais fait un détachement pendant que j'étais au barreau.
Ok.
Un détachement pour eux dans une entreprise où on gérait un contentieux depuis longtemps. Donc voilà, naturellement, je retournais chez Latam que j'avais bien aimé pour leur stage final en sachant qu'il y avait une option collab assez certaine a priori.
Ouais.
Donc voilà, j'ai fait mes 6 mois chez eux et pareil, hein, franchement, bien accompagnée, bien formée. Vraiment rien à dire. Je pense que j'ai eu de la chance. Le problème, c'était les horaires, hein, comme dans tous ces gros cas où tu passes beaucoup de temps.
Mais les horaires, enfin, gros horaires, mais dans un environnement plutôt bienveillant et sympa.
Ouais.
D'après ce que je comprends.
Ouais, franchement, j'ai pas eu ce genre d'expérience. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui en ont eu. Très compliqué, où le partenaire est jamais là, où le partenaire te parle mal, où t'es un peu la petite main. Là, non, là, c'était vraiment une bonne équipe qui était quand même plus la même que celle que j'avais moi connue à l'époque, mais qui restait quand même vraiment bienveillante, vraiment pas à me plaindre. Donc voilà, la question s'est posée de la collab après entre Latam et Cléry, que j'avais quand même bien aimé, équipe super aussi, et ça s'est fait un peu par hasard. Latam mettait du temps à se positionner pour une offre, Cléry, je savais qu'il y avait aussi une possibilité là-bas, donc j'ai fini par dire à Latam, bon, en fait, là, il faut que je me positionne. Donc, voilà, dites-moi. Ils ont mis du temps. Donc, moi, j'ai recontacté Cléry.
OK.
Ils m'ont fait une offre assez vite. Et après, bon, voilà, c'était un peu trop tard pour Latam. Enfin, maintenant que j'avais recontacté mes anciens boss, je ne me voyais pas leur dire, ben, c'était juste pour faire un levier. je reste chez Latam. Donc, voilà, Latam, quand ils m'ont fait l'offre, c'était un peu trop tard. Je suis repartie chez Cléry. J'avais aussi pas mal d'amis chez Cléry. Donc, c'était un peu l'occasion de travailler avec eux.
Mais c'était pas le grand saut dans l'inconnu non plus.
Non, voilà. Donc, dans les deux cas, c'était un peu pareil. Je pense que ce soit Latam ou Cléry, c'était un peu le même genre de cabinet, ça aurait rien changé à la suite, quoi.
Ok. Et donc, chez Cléry, t'arrives en tant que collab, toujours droit de la concurrence.
Ouais.
Pendant combien de temps ?
J'ai fait 1 an et 3 mois, exactement.
Ok.
J'ai fait partie de cette première génération, je crois, qui reste pas, qui attend pas 3-4 ans comme on le faisait avant. Moi, mes amis étaient plutôt en 3-4e année quand je suis arrivée, que j'avais rencontré quand eux, ils étaient en stage final et moi en stage de césure, donc plus âgée. Et eux encore dans cette dynamique de on fait 3-4 ans pour faire les 3-4 ans qu'il faut dans les gros cabs et après on se réoriente. Moi, ma génération, plus du tout. Pour le coup, c'était vraiment... on veut faire un truc qui nous plaît. On n'est pas là pour remplir des lignes sur un CV. Moi encore un peu, mine de rien. Donc quand je suis arrivée, j'étais encore dans cette optique de faire 3 ans en sachant que je ne resterai pas longtemps.
Ouais.
Mais plutôt 3 ans.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à, au bout d'un an et 3 mois, dire stop ?
Je pense le Covid. Mine de rien, okay. Je suis arrivée en pleine année Covid, moi, 2019. Donc, 2020, confinement. Je me retrouve à faire des horaires pas possibles, mais chez moi. Donc, vraiment pas le même délire.
Pas très sympa.
Ouais. J'avais plus mine de rien, l'équipe, ça te tient beaucoup dans ce genre de cabinet. Quand t'as beaucoup d'amis qui sont là, qui sont avec toi, qui font les mêmes horaires, ça te tient. Là, j'étais toute seule chez moi. Je me suis sentie très seule. Et vraiment, ces moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?
Oui. Qu'est-ce pourquoi que je m'impose ça ?
Mais ouais, qu'est-ce que je fous à 1h du mat sur mon ordi toute seule à m'occuper de faire des fusions acquisitions donc ça m'a un peu remis face à à mes premières amours, à mes premières motivations pour lesquelles j'avais fait du droit, qui étaient quand même les droits humains.
Oui, et là, tu t'es dit que tu t'étais bien éloignée du truc.
Ouais, je me suis rendu compte que l'envie de bien faire, finalement, ça m'avait quand même vachement éloignée, que j'adorais pas ce que je faisais. Je détestais pas du tout. Je pense que j'aurais pu faire plusieurs années là-dedans, sans me poser de questions. Mais pour le coup, le Covid a fait que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, en fait? Je savais très bien qu'après cette collab, je ferais pas droit de la concurrence. Je ferais plus de droit des affaires. Donc, cette envie de faire 3 ans pour me recycler dans un cap plus petit, ça servait à rien. Là, oui. je perdais un peu du temps. Alors, pas tant que ça, parce que pour le coup, je cracherais jamais dans la soupe. J'ai eu une formation chez Cléry. J'ai bossé pour des gens brillants. Vraiment, pour le coup, c'est un truc qui manque. Après, quand on part d'un cabinet comme ça, c'est de retrouver des gens brillants pour lesquels bosser, c'est plus difficile.
Dans les gens qu'on admire.
Les plus petites structures, t'as de tout, en fait. T'as des cabinets super, t'as des
cabinets
moins bien. Attention,
là, t'es en train de dire que dans les petites structures, non. Les gens sont cons. Et...
J'en suis une, donc. Mais en fait, il y en a tellement des petites structures que oui, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi, en fait. C'est plus compliqué de faire le tri, t'as moins le bouche à oreille. Baliser des gros cabinets où tu sais où il faut aller, où il faut pas aller. Tu sais que de toute façon, en termes d'horaire, c'est l'enfer. Donc, tu sais dans quoi tu t'engages. Les petits cabinets, c'est vraiment, tu connais pas. T'as peu de bouche à oreille, donc tu t'engages dans des trucs qui sont assez hasardeux, finalement. Là, pour le coup, moi, quand je suis partie, je savais que je quittais un truc en termes de qualité. Je savais que je quittais un truc vraiment top. Et que je savais pas ce que je retrouverais, mais les horaires, ça allait plus, les valeurs, ça allait plus.
T'es partie sans avoir de plan B ?
Ouais.
Ok.
Ouais. J'avais envie de prendre le temps de réfléchir, de me dire, en fait, là, ça suffit. La filière un peu idéale que je suis depuis le lycée, il faut que j'arrête. Il faut que je trouve un truc qui me plaise, qui soit en ligne avec mes valeurs. Et donc, j'avais envie de prendre le temps aussi, moi, avec les économies que j'avais pu faire chez Cléry. Je l'ai quand même très, très bien payé.
Très bien payé, et puis surtout pas le temps de dépenser.
Exactement. Donc de me dire, en fait, c'est pas grave, je prends le temps qu'il faut, mais je me recentre et je vois ce que j'ai vraiment envie de faire sans la pression de faire bien. Donc j'ai pris 4-5 mois.
Ok.
En mode, je fais du droit des femmes, donc je prends beaucoup de café, de déjeuner avec des gens à droite à gauche. Je me renseigne sur les assos, ce que c'est que de bosser en asso, les travers qu'il peut y avoir aussi en association. Pour le coup, il y en a pas mal. Beaucoup de burn-out en asso, je m'en suis rendu compte.
Ouais.
Donc, moins l'idéal que j'avais, notamment à la Ligue des droits de l'homme, où c'était trop bien, super équipe, plus étranger que droit des femmes. Donc, moi, je cherchais un truc plus droit des femmes, mais pour le coup, assez cool. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était pas le cas de beaucoup d'assos, il y avait quand même beaucoup de difficultés. Est-ce que je monte un truc?
Tu voulais être... Enfin, à l'époque, tu te disais pourquoi pas être juriste en asso?
Ouais.
Ok.
Juriste en asso, carrément monter une asso ou me mettre dans une asso plutôt en front sur la com, sur...
D'accord.
Rien, possiblement rien à voir.
Ok.
C'était vraiment tous les possibles, donc j'ai eu beaucoup de mal à me recentrer. Et finalement, j'ai même pas eu à mener jusqu'à terme ma réflexion parce que, encore une fois, ça s'est un peu fait par hasard, mais c'est une amie, au départ, une amie d'amis, qui me dit, pareil, qui a quitté les grosses structures, qui est partie dans un petit cabinet, en me disant, franchement, ce cabinet, il est pas mal, c'est très féministe, c'est assez engagé. Alors, elle faisait du droit commercial, mais elle me disait, il y a une équipe droit du travail, et pour le coup, pas mal engagée droit des femmes, donc ça vaudrait le coup de regarder. Alors moi, droit du travail, j'en ai jamais fait, ça m'intéressait pas du tout.
Mais t'as même pas fait à la fac, quoi.
Non, ça m'intéressait pas du tout.
Enfin, du coup, à Sciences Po, pardon.
Ça a vraiment une image, une matière assez aride, quand même, le droit du travail. T'imagines le droit de la sécu, la question des congés payés à compter. Vraiment, moi, ça m'intéressait pas, mais
pas
vraiment
à 0%. Très sexy sur le papier.
Non, pas du tout. Et donc, du coup, sur le coup, j'étais en mode, oula, pas du tout. Je m'étais fait au mettre du barreau, déjà, en me disant, de toute façon, je pars sur autre chose.
Ok.
Donc, c'était vraiment pas le délire vers lequel
je m'en rendais. Ah oui, ta réflexion, c'était vraiment... Qu'est-ce que je vais faire d'autre qu'avocat?
Ouais.
Je pensais que c'était une réflexion globale en me disant que tu pouvais continuer ta carrière d'avocat, etc. Mais à l'époque, t'étais assez convaincue de plus vouloir faire ça.
Bah, j'avais tellement d'amis qui étaient partis sur des plus petites structures et avec qui, pour qui ça s'était mal passé.
Ouais.
Que je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir à faire ce tri, d'avoir à avoir ce bouche à oreille parfait où on me dit ça, c'est le super cab. Vas-y, c'est une petite structure trop bien. Parce que moi, je voulais une petite structure. Je voulais plus ces gros cabinets. Encore une fois, qui m'ont trop bien formé et vraiment, je crache vraiment pas dans la soupe, mais qui, moi, m'allait plus en termes d'horaire, de vie privée, et puis de dossier. Enfin, clairement, droit des affaires, c'était pas mon truc. Donc, vraiment le hasard où cette fille me dit, franchement, renseigne-toi quand même, on sait jamais. Je me suis dit, ça coûte rien, je passe l'entretien, on me donne une requête à faire, donc une espèce de saisine, des conclusions en gros, en droit du travail pour un salarié.
Et eux, dans la petite structure, ça leur faisait pas peur de te faire passer un entretien pour le droit du travail alors que tu n'y avais jamais touché?
Non, elles étaient dans une démarche assez, assez intelligente qui est de dire on s'en fiche du parcours, le droit, on se forme sur le tas, en fait. Donc, ce qu'on veut, c'est des bons profils qui sont motivés, qui voilà, paraissent suffisamment OK pour pouvoir se former sur le tas aussi, hein, forcément, mais pas forcément avec une grosse expérience en droit du travail. Donc, ça a été un peu ma chance, ça, pour le coup. Elles me font passer un entretien, ça match. Donc, j'ai deuxième étape, la requête à faire. Donc, cette espèce de conclusion à faire en droit des salariés. Donc, on me donne un vrai dossier et je fais rémunérer, pour le coup. Donc, ça, c'était faire. Ouais, c'était très faire.
Ah oui, donc, c'est vrai que ça donne de bons indices sur un peu les valeurs du cabinet, etc. Parce que ça, c'est hyper rare.
Exactement. Donc, moi, j'étais plutôt en mode, OK, bon, j'ai des bons indices, plus ils sont assez faire là-dessus. Donc, je fais la requête et en fait, j'adore faire la requête. Je me rends compte que vraiment, le contentieux, c'est trop cool. Et en fait, ce côté très engagé de tu défends un salarié qui s'est fait virer de façon abusive.
Ouais, en fait, assez naturellement. Enfin, moi, je trouve que ça te correspond bien.
Bah ouais, mais j'y avais jamais pensé en fait. Parce que le droit du travail, c'est tellement mal vu, tellement vu comme quelque chose de chiant que ça me. Voilà, et en fait, trop intéressant. Et en me renseignant un peu, je me rends compte que, bah ouais, en fait, pour faire du droit des femmes, le droit des femmes, ça n'existe pas concrètement. T'as du pénal, qui pour moi, il y a un peu la voie naturelle. Mais qui est très dur. Pour le coup, pour avoir des amis qui font pas mal de pénal, droit des femmes, c'est très très dur au quotidien quand tu fais que ça.
Ok.
Je voyais un peu le droit de la famille aussi en me disant, ben ouais, tu fais les ordonnances d'éloignement, les violences conjugales. Et en fait, le droit du travail, qui est une vraie porte d'entrée vers le droit des femmes, parce que tu fais tout ce qui est harcèlement sexuel, tout ce qui est discrimination à la mater, à la maternité. Mes abréviations à la con.
Discrit à la mater.
Discrimination à la maternité.
C'est quoi ce que tu appelles discrimination à la maternité?
Bah, quand tu rentres de congé mat et qu'on te dit bah, la porte elle est là, ou qu'on te met au placard, que dans des, notamment un gros cap de conseil, t'évolues, puis du jour au lendemain, t'as deux enfants, t'évolues plus. Mm-mm. On se rend compte que t'as une espèce de plafond de verre. Il y a plein de dossiers comme ça en fait, où tu te fais avoir.
Et ça, en termes de preuves, ça doit être un petit peu compliqué.
Ça dépend. Ça dépend si tu penses, enfin si tu te rends compte assez vite qu'on est en train de te mettre au placard. Et que tu as le réflexe d'aller voir un avocat assez vite. Ou en tout cas d'être suffisamment bien renseigné sur tes droits pour savoir comment gérer le truc. Parce qu'en effet, sinon, tu n'as pas de preuves. Donc, il faut faire des écrits. Il faut un peu essayer de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Pas hésiter à enregistrer les entretiens. Quand on va te dire à l'oral ce qu'on ne mettra pas à l'écrit, qui sont de dire « Non, mais là, avec tes enfants, tu ne pourras plus gérer. » On ne te dit pas « Tu ne sers plus à rien. » On te dit « C'est compliqué. »
Mais ça, t'as pas le droit de t'en servir comme preuve si t'enregistres.
C'est débattu. La question se pose. Non, franchement, il y a plusieurs arrêts de cour de cassation, dont un très récent 2023 là, qui rappelle que c'est pas une preuve déloyale dès lors que c'est dans le milieu pro.
Ok.
Et surtout, ce qu'on peut te reprocher, c'est l'atteinte à la vie privée. Mais dans le milieu pro, il y a pas d'atteinte à la vie privée.
Ok. Je pensais quand même qu'il fallait dire qu'on enregistrait un petit peu comme les caméras de surveillance, etc. Si tu n'informes pas les salariés, il me semble que du coup...
Ouais, côté salarié, c'est pas la même chose. Côté employeur, ça se débat. Il y a des conseils de prud'homme qui vont te les écarter, hein, tes pièces, qui vont te dire, dans l'enregistrement, c'est déloyal, on n'en veut pas.
Ouais.
Mais t'en as qui vont les garder. Dans tous les cas, tu perds rien à enregistrer, tu perds rien à retranscrire l'écrit. Mm-mm. Au pire, le juge, il va te dire, bah moi, en fait, j'en veux pas, c'est déloyal. Bon, bah très bien, je produis la retranscription. Dans tous les cas, il sait que ce que j'écris, c'est vrai. Maintenant, la preuve, ils l'ont pas parce qu'on l'a écarté, mais
Ça peut mettre une petite graine aussi dans la tête du juge.
Donc moi, je conseillerais toujours d'enregistrer quoi qu'il arrive. Okay. Et puis après, tu fais des écrits qui vont bien pour justement orienter un peu les réponses de l'employeur et pour avoir tes preuves et ton dossier. Et là, après, tu peux avoir un dossier solide en discrimination.
Mm-mm.
Donc c'est un boulot en amont à faire, pour le coup.
D'accord.
Mais c'est hyper intéressant. Et moi, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop bien, que ça me faisait rentrer dans une sphère de droits des femmes que je n'avais pas envisagée. Qui était très terre à terre et qui, pour le coup, était assez vaste, en fait. Donc trop contente.
Ok.
Je suis arrivée là sans formation. Je rejoins ce cabinet, qui était une équipe de six collaboratrices, que des femmes. J'avais une senior trop bien, qui s'appelait Camille, qui était super bonne, qui m'a trop bien formée. Qui venait du milieu des employeurs. Et pour le coup, ça permet d'être bien.
Là, vous étiez 100% côté employé ?
Ouais, c'était que du salarié.
Ok.
Que du salarié. Pour le coup, ce que je referais pas, moi maintenant, je fais les deux, avec évidemment une fibre beaucoup plus salariée. Mais je pense à la réflexion que c'est indispensable de faire les deux. pour bien défendre les salariés notamment, pour vraiment avoir en tête
une bonne vision de l'autre côté.
Exactement. Tu sais ce qui se passe de l'autre côté en fait.
Ouais.
Et surtout, tu gères des choses côté employeur que tu gères jamais côté salarié. Quand t'es côté salarié, tu fais un peu toujours la même chose. C'est passionnant, mais c'est toujours la même question. Tu te tiens un jour évidemment de la jurisprudence, de savoir le harcèlement, la discrimination, comment ça se passe. Mais le prix d'un avocat fait qu'un salarié vient pas te voir parce qu'il a une question sur son bulletin de paye ou parce qu'il a une question sur ses congés payés. Les employeurs le font. Donc en fait, tu gères des choses plus techniques qui sont hyper intéressantes à gérer et qui en plus te permettent de te spécialiser dans des domaines que tu n'avais pas trop en tête avant et que quand tu es côté salarié et que tu dois négocier, tu vas identifier des choses que tu n'aurais pas identifiées en temps normal.
Ouais, bien sûr.
Des incohérences dans le bulletin de paye, des avenants qui n'ont pas été signés correctement, des trucs que tu ne fais pas normalement et qui te permettent d'avoir des leviers de négo que tu n'as pas normalement quand tu fais que du salarié. Donc ça, pour le coup, à refaire, je ferai les deux. Bah, d'ailleurs, je fais les deux maintenant.
Ouais.
Mais bon, pour une première expérience, c'était très bien. Cette senior, elle m'a trop bien formée en droit des salariés. Elle répondait à toutes mes questions, très dispo. Donc pour le coup, formation accélérée, très autonome sur mes dossiers aussi dès le début. Donc,
ouais. Être en front avec les clients rapidement, direct. Etc.
Génial. Ouais, mais mon associée, parfois, elle connaissait même pas le nom des clients, je pense. Donc il y avait beaucoup de dossiers. C'était vraiment... ouais, très autonome, ce qui m'a permis d'être assez vite opérationnelle sur ce thème-là. J'étais avec deux collaboratrices trop bien, mais qui étaient de mon année, qui étaient, elles, pour le coup, spécialisées dans du travail, qui m'accompagnaient aussi carrément, qui étaient trop, trop sympas. Enfin, donc, ça a été une formation express, mais très bien. Et ça n'a pas duré longtemps non plus. Ça a duré un peu plus d'un an. Le fonctionnement interne nous convenait plus. Il y a eu quelques difficultés en interne. Toute l'équipe a démissionné. On était 6 à être partis en même temps.
Ah oui.
Ouais. Donc du coup, j'ai pas eu envie de rester pour les mêmes raisons que les autres d'ailleurs. Hein. Et c'est posé la question ce que je faisais après. Pour le coup, là, c'était ma deuxième collab. J'avais été assez déçue finalement de cette collaboration qui me vendait un peu du rêve au départ et qui n'était pas finalement en ligne avec ce que j'espérais. Et c'était assez clair que j'avais pas envie de refaire une collab. De repartir dans cette recherche d'un petit cabinet qui respecte ta situation de salarié collab, qui sont en ligne aussi avec ce que tu as envie de faire. C'est compliqué à trouver.
Ouais, et puis en plus, si on t'avait donné quand même beaucoup d'autonomie, notamment vis-à-vis Exactement. Des clients, etc., et tu y avais goûté, ça aurait peut-être été compliqué dans un autre cas en tant que collab d'avoir ce degré-là de responsabilité. Donc,
C'est exactement ça. Je ne me voyais pas repartir dans une collaboration en me disant « mais on va me redonner des ordres, on va me rediriger dans mes arguments », alors que là, j'ai eu l'habitude de tout faire toute seule. Donc, assez naturellement, ça m'a quand même poussée sur l'idée de se mettre à mon compte. J'ai toujours eu ce truc un peu aussi d'avoir envie de gérer les choses comme j'en avais envie, sans trop de directives. Et cette fameuse Chloé, qui est celle qui m'avait fait venir au cabinet au départ, et que tu connais aussi pour avoir fait la formation avec moi, elle gérait, pour le coup, toute seule le pôle tourisme dans ce cabinet. Et donc, elle me disait, mais moi, évidemment que je me lance. Enfin, ça fait un an que j'ai un statut de associée quasiment officieux, en fait. Elle gérait tout, elle faisait le développement.
Oui, elle avait son propre pôle.
Complètement. Oui. Donc, clairement, elle était vraiment en mode, mais moi, je me lance, en fait. Et au départ, on plaisantait un peu là-dessus en se disant, on se lance à deux. Et petit à petit, c'était moins des blagues. Et en fait, on s'est dit, mais... nous, on voulait le meilleur des deux mondes. Elle venait aussi d'un milieu du cabinet anglo-saxon et on avait, je crois, envie de retrouver un peu cette exigence des gros cabinets où les choses sont très carrées, où ce qui sort du cabinet, ce sont des choses très carrées, avec lesquelles les clients sont super contents. Cette rigueur un peu juridique que tu as, mais que tu as aussi dans plein de petits cabinets, hein, pour le coup. J'ai des consoeurs qui ont fait toute leur formation en petit cabinet qui sont excellentes. Hein. Moi, j'ai connu que les gros cabs au début, donc je parle que de ce que je connais, mais cette formation, il n'y a pas de trou dans la raquette, en fait. Tu passes 4 heures sur une recherche parce qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, mais n'empêche que derrière, c'est une formation qui te sert.
Oui, ça t'apprend la rigueur.
Ça t'apprend la rigueur. Alors, c'est très dur. Et encore une fois, je n'avais pas envie d'y faire ma vie, mais voilà, on avait envie de retrouver un peu ça et en même temps de garder cette flexibilité des petits cabinets où tu as tes horaires, où... tu choisis tes dossiers et t'es en ligne avec tes valeurs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé.
Ouais. Et alors justement, quand vous avez décidé de vous lancer, comment ça se concrétise un projet comme ça? Comment tu te mets d'accord sur, ne serait-ce que, je sais pas, sur l'image du cabinet? Vous faisiez donc deux matières différentes. Ouais. Comment t'essaies de créer un truc cohérent quand même?
Ça a été une de nos grosses difficultés. Sur l'image qu'on voulait du cabinet, sur les dossiers qu'on voulait, on était hyper en ligne. Elle est très féministe aussi. On a vraiment les mêmes valeurs. Elle est très carrée. Enfin, pour le coup, on est très similaires sur plein de trucs. Donc vraiment, On savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait plus. En revanche, la question de la cohérence de l'image du cabinet vis-à-vis des clients, c'était un vrai sujet. Moi, c'était très clair que je voulais faire du droit des femmes, que je voulais que ce soit un engagement affiché. Je voulais pouvoir développer un peu le pénal, ce que je fais maintenant, sur les violences sexuelles. Elle fait du droit commercial et du droit des assurances. Donc, pour le coup, c'était plus compliqué de s'afficher en, comme on m'appelle toujours, féminazie, hyper militante, hyper gaucho, alors que elle, son domaine, c'est quand même le droit commercial, un peu le droit des affaires.
Oui.
On a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup arraché les cheveux là-dessus. On se voyait pas avoir un cabinet qui dit bon bah voilà, si vous avez des problèmes de salariés et des problèmes de droit commercial, venez chez nous, ça n'a pas de sens. Un salarié va pas venir pour avec des problèmes de droit du tourisme et inversement. Donc finalement, on s'est dit pourquoi pas plutôt mettre ce qu'on propose en avant, qui on est en avant, qui regroupe assez bien ce qu'on peut proposer, et moins les matières. Parce okay. que finalement, les matières, c'est assez changeant. Elle a développé, elle a une formation de droit des assurances au départ, donc elle a redéveloppé ça au fur et à mesure, mais au départ, c'était pas l'objectif. Moi, je suis partie un peu sur le pénal aussi en plus, ce qui n'était pas l'objectif non plus. Ça, c'est un peu mouvant. En revanche, ce qu'on est, ce qu'on propose.
En plus, ça parle plus aux prospects, aux clients,
bah oui,
que
bah,
les matières en elles-mêmes.
Mais oui, mais en plus, c'est ce qu'on a vu avec vous quand on a fait la formation, qu'à un moment, il faut savoir aussi ce qu'on propose et comment se vendre. Et nous, l'idée, c'était de dire, bah, on est deux entrepreneuses. On est jeune, on connaît le milieu de l'entrepreneuriat, on sait ce que c'est que le besoin d'être accompagné vraiment de A à Z sur plein de projets, en juridique, en un peu moins juridique aussi. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, pour le coup, aux boîtes qu'on accompagne. Et moi, j'avais ce truc de l'engagement, j'ai pas envie de le cacher, on n'a pas envie de cacher qui on est. Et en même temps, on avait peur que ça fasse fuir les boîtes qui sont avec Chloé, parce que autant moi, bon, ça n'avait pas d'impact, autant pour Chloé, ça pouvait avoir un impact. Et Chloé m'avait dit cette phrase à un moment, je me rappelle, on était en vacances toutes les deux et on s'arrachait les cheveux sur le site internet et ce qu'on mettait en avant. Et elle m'avait dit, en fait, je crois que j'en ai marre de ce milieu. Voilà, je suis féministe, je vais pas me cacher. Et les boîtes qui ont pas envie de bosser avec moi parce que je suis féministe, oui, ben, en fait, j'en ai pas envie. Voilà.
Et puis vous en attirerez d'autres qui, au contraire, vont être séduits et intéressés par ce positionnement.
Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, Chloé, elle cartonne concrètement, elle n'a pas du tout de problème de dossier, alors que pour le coup, elle ne se cache plus du tout. On est assez clair sur le site. Moi, j'ai carrément une page sur le site internet dédiée à mes engagements féministes, sur l'endométriose, sur les violences gynéco. Vraiment, ce n'est pas caché. Chloé, elle a plein de demandes et pour le coup, les boîtes qui bossent avec nous, que moi j'accompagne en droit social, c'est des boîtes que ça ne dérange pas du tout. C'est des boîtes en général super inspirantes, avec de mon côté des RH. Vraiment top. C'est des boîtes que j'ai envie d'accompagner en fait, et qui nous ressemblent en fait. Donc finalement, ça a été gagnant-gagnant de faire ça. On a eu du mal, pareil pour le logo en écriture inclusive. Moi, je voulais un logo en écriture inclusive parce que j'y tiens. Le site internet, pareil, est en écriture inclusive. Et on sait que ça, il y a plein de gens qui considèrent que c'est un sujet grave et que ça fait de nous des espèces d'extrémistes. Et ben ça, pareil, on s'est dit tant pis en fait. Ça nous paraît important. Tant pis pour ceux que ça rebute, limite tant mieux pour nous en fait. Donc
Et complètement, parce que de toute façon, faut travailler avec des personnes aussi bah avec ouais. lesquelles on est en accord.
Exactement.
C'est mieux, ça fait le tri. Et de toute façon, on sait très bien qu'à partir du moment où on choisit comme ça un positionnement un peu marqué, incarné, bah oui, ça va en faire fuir quelques-uns, mais ça va vraiment être aussi un élément de séduction, j'allais dire. Enfin, ça, voilà. Sur le marché, un élément différenciant fort. Ouais. Donc
je pense que ça a dû faire perdre des clients à Chloé. Ça, c'est probablement que ça a peut-être rebuté certains. Mais en tout cas, ça en a attiré d'autres. Et peut-être que c'est ce qui a joué aussi pour nous en notre faveur. Moi, j'ai des boîtes que j'accompagne qui, les contrats de travail sont en écriture inclusive. Donc pour le coup, il y a de tout hein, dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux. Donc non, je pense que ça a été une bonne idée. On a bien fait de le faire. Moi, vraiment, on est trop contente.
Top. Et alors, donc, du coup, ça, c'était il y a combien de temps? Il y a un an et demi?
Un an et, quelques mois. Okay. C'est tout récent.
Donc, vous êtes deux associés. Vous avez une collab?
Ouais, une collaboratrice. Et là, moi, j'ai une stagiaire finale qui arrive en décembre. Et Chloé est en phase de recrutement, a priori stagiaire finale ou alternante. Peut-être collab à terme. Là, on est en pleine croissance. Là, on a changé de locaux à la rentrée parce qu'il fallait qu'on s'agrandisse. Donc, on sait que voilà, il va y avoir des recrutements à terme, d'un court moyen terme. Mais pour l'instant, on est 3 et 4 en décembre.
Et en termes de développement, pour le moment, vous naviguez un petit peu à vue. C'est-à-dire que là, il y a du boulot, il faut embaucher. Voilà, ça grossit tranquillement. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit, bon, bah, nous, de toute façon, on voudra, quoi qu'il arrive, rester une petite structure, taille humaine, etc. Ou finalement, au contraire, vous vous dites, plus ça grossit, mieux c'est.
C'est une bonne question. Ça, on a souvent des discussions là-dessus où on se demande ce qu'on veut. Le but depuis le début, c'est de se dire vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est rester à taille humaine. Et ça, je pense que ça changera jamais. On veut pas devenir un gros cabinet. C'est compliqué à gérer. C'est plus la même chose en termes de gestion des dossiers. Pour moi, c'est important de garder la main sur les dossiers parce que j'aime bien ça. En fait, j'aime bien le droit. C'est un truc qui me plaît. Et forcément, plus on grossit, plus c'est difficile de garder un œil sur les dossiers. Donc ça, c'est une chose. Après, la taille qu'on veut avoir à la fin. Au départ, moi, j'étais en mode aller 2-3 collabs max et on s'arrête. Maintenant, des fois, on se dit pourquoi pas diversifier, pourquoi pas. Il y a des fois des contacts un peu pour s'associer, pour agrandir un peu avec d'autres matières. On se dit pourquoi pas à terme. Au départ, c'était pas du tout l'objectif, mais puis maintenant, on se dit pourquoi pas avoir de l'API, un peu de fisca pour vraiment. Nous, on bosse déjà avec des confrères et consoeurs qui sont dans ce domaine-là et qui vont nous aider au quotidien pour vraiment avoir un guichet unique pour les boîtes. Mais pourquoi pas carrément intérioriser ça, internaliser ça, avoir. À voir. Ça, c'est des réflexions qu'on aura, je pense, dans 2 ans.
Et une perspective d'association avec un confrère, consoeur en pays, etc. Du coup, il faudrait que vous trouviez un associé aussi convaincu que vous. Enfin, est-ce que ça, c'est un critère numéro 1 dans vos recrutements, même pour les stagiaires, etc., d'avoir cet engagement féministe?
Alors oui, clairement, d'un point de vue personnel, plus que pro, en fait.
J'ai pas
envie de m'associer avec quelqu'un avec qui je suis pas d'accord.
Non, mais tu peux avoir quelqu'un qui est pas spécialement impliqué dans ces combats-là, mais qui les comprend. Tu vois, moi, typiquement, je comprends totalement et je trouve ça passionnant. Au quotidien, j'avoue que c'est pas mon combat quotidien.
Ouais.
Mais
non, t'as raison. En soi, alors, ça, il faut en parler avec Chloé, parce qu'on en a pas discuté tous les deux, mais moi, en tout cas, je m'en fiche, c'est pas quelqu'un de militant. De toute façon, pour faire de la propriété intellectuelle, on est quand même très indépendante avec Chloé sur les dossiers qu'on gère, sur la façon dont on a organisé le cabinet, on est très indépendante, même en termes de structuration. Donc, j'ai pas de problème à être associée avec quelqu'un qui est pas militant, féministe. Non, tant que c'est pas quelqu'un de profondément misogyne, c'est déjà ça. La question, c'est plus est-ce qu'on a envie de s'agrandir, est-ce qu'on a envie de s'associer avec d'autres gens, est-ce qu'on a envie de faire rentrer des gens. Pour l'instant, l'objectif, c'est plutôt de consolider ce qu'on a, de recruter dans nos équipes pour nous aider, parce que mine de rien, on a quand même pas mal de boulot. Et voilà, moi, je sais que là, la stagiaire qui arrive, ça va me faire beaucoup de bien en termes de charge de travail. Et voilà, à terme, dans 2-3 ans, se posera la question de est-ce qu'on s'agrandit en horizontal, est-ce qu'on continue en vertical avec plus de recrutement. Mais voilà, toutes les options sont ouvertes à ce stade.
Ok. Et donc, sur cette envie que vous aviez de créer votre structure, c'est fait, etc. Du coup, là, par rapport... Tu parlais tout à l'heure de tirer le meilleur des deux mondes entre les gros cabs anglo-saxons par lesquels vous étiez passé, le petit cab par lequel vous étiez passé aussi, cabinet de femmes, etc. Là, vous avez la sensation... Enfin, tu as la sensation et vous avez la sensation avec Chloé d'avoir réussi à tirer le meilleur des deux mondes.
Franchement, oui. On est vraiment très contente. On en parlait il n'y a pas longtemps. On faisait un point sur les 1 an du cabinet. Tout n'est pas parfait, forcément, mais on est vraiment super contente. Si c'était à refaire, je le referais 10 000 fois. On s'arrache à nouveau les cheveux sur des recherches parce qu'on a le temps. On y consacre le temps qu'on veut, en fait. Donc maintenant, moi, si j'ai une recherche qui va me prendre beaucoup de temps, j'ai plus de problème à y passer des heures et des heures, même si c'est pas très rentable sur le coup. Parce que ça me forme déjà, parce que j'ai envie que ce soit nickel. Et par ailleurs, mes dossiers me plaisent trop. Je fais beaucoup de choses en lien avec ce que je voulais vraiment faire au départ. J'ai vraiment développé ce pan un peu discrimination à l'endométriose. Donc ça, c'est un nouveau truc où j'ai de plus en plus de clientes qui viennent me voir parce que alors c'est de la discrimination et à la fois sexiste et à la fois à la maladie parce que c'est des femmes qui ont cette maladie qui est encore très méconnue.
Oui, mais qui est quand même avérée.
Qui est encore avérée. Mais alors, figure-toi qu'il y a encore pas longtemps, une fille qui m'a appelée pour un dossier qui m'expliquait que... Alors là, c'était la CPAM, donc la Sécurité sociale, qui avait mis fin à son arrêt parce que ça suffit l'endométriose, là, c'est votre truc à la mode, mais ça n'existe pas vraiment. C'est un médecin qui lui a dit ça et qui a mis fin à son arrêt. Donc voilà.
Parce que c'était pas un médecin tout jeune.
Ouais, je pense aussi. Mais voilà, du coup, tu te dis, il y a quand même encore du chemin. Et là, j'ai un dossier en ce moment d'une fille qui s'est fait rétrograder du jour au lendemain parce que trop souvent en arrêt, parce que son employeur voulait pas la laisser se mettre en télétravail. Enfin, des trucs un peu aberrants comme ça qui font que bah, petit à petit, ça te pèse dans ta vie pro et tu dégringoles en fait.
Et je me fais un peu l'avocate du diable, mais c'est pour faire avancer la réflexion. Justement, toi, maintenant que tu as ta structure et que tu as là, une collab et puis à terme, peut-être plus, évidemment que je ne suis pas du tout pour le fait de rétrograder qui que ce soit pour cause de maladie, de grossesse, bien entendu, hein, c'est juste que j'essaie de réfléchir. Et je me dis quand même, ça peut quand même être handicapant pour une ou un chef d'entreprise, en effet, d'avoir quelqu'un d'absent très régulièrement. Donc, comment on équilibre ça, enfin, tu vois?
Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que plus tu es une petite boîte, plus c'est pesant. Après, il y a des mécanismes dans le code du travail qui font que tu as quand même possibilité de t'en sortir. Déjà, il y a l'inaptitude. Donc, quand tu n'es plus en mesure de faire ton travail et que le médecin du travail estime que tu n'es plus en mesure de le faire, il te met inapte. Et l'employeur peut te licencier.
Okay.
Et quand tu as un salarié qui en arrête depuis un an et demi, et que tu es une petite boîte et que ça désorganise vraiment le service, c'est un motif de licenciement. Tu as le droit de licencier. Donc quand même, le code du travail a prévu
quelques mécanismes de protection aussi de la petite entreprise.
Oui, oui. Il y en a. Alors après, ce n'est pas idéal pour plein d'entreprises parce que c'est toujours compliqué de licencier. Mais par ailleurs, moi, ce que je pense, et ça vaut aussi pour les petits cabinets d'avocats, c'est que c'est plus à l'État de prendre le relais qu'à la petite entreprise de subir ça.
Ouais, carrément.
Et ça, je le pense notamment pour la maternité, où je trouve ça encore aberrant, que notamment chez les avocats, aujourd'hui, si moi d'ailleurs même à titre perso, ou ma collab a un enfant, qu'elle se met en congé maternité, je continue, moi, dans ma petite structure, à devoir lui payer son salaire quasiment à 100%, mais je dois faire le travail toute seule, donc je dois embaucher quelqu'un pour la remplacer. Pour moi, financièrement, c'est un gouffre. Alors, évidemment que je le ferai.
Oui.
Heureusement qu'il faut le faire et qu'elle a le droit d'avoir des enfants.
Oui.
Mais financièrement,
oui, c'est vrai
ça
que
met la boîte en difficulté.
Et ça refroidit, du coup. Voilà,
ouais. Bah ouais. Et donc, du coup, forcément, je sais qu'il y a plein de boîtes et de cabinets d'avocats qui ne veulent pas recruter des femmes avocates parce qu'ils vont se dire, mais en fait, si elle se met en congé mat, aujourd'hui, nous, ça nous met dans la merde.
Mmh.
Et financièrement, c'est vrai. Symboliquement, ça me pose problème, évidemment, et je le ferai jamais, mais je me dis pourquoi ce n'est pas le barreau de Paris ou la Sécu, ou la prévoyance financée en partie par le barreau de Paris, qui prendrait pas en charge les 50% restants du congé mat pour que ce soit un dolore pour l'entreprise, et c'est là qu'on aura une vraie égalité, comme le congé paternité en entreprise, c'est là qu'on aura une égalité, à partir du moment où, au niveau de l'embauche, on n'a pas le sujet de la question de se dire « mince, si elle est enceinte, moi je suis dans la merde
ouais. ».
C'est ça, moi, qui me pose problème, mais oui, en effet, pour les entreprises, dans l'État aujourd'hui, où la loi est et gérer la collaboration libérale, ça peut poser problème, ouais.
Ouais. Mais du coup, parfois, ça doit être compliqué quand même de défendre, malgré toutes ses convictions, un salarié comme ça, quand tu peux aussi envisager... Ouais.
Après, on défend tout, hein, quand on est avocat. Moi, de toute façon, symboliquement... Je préfère défendre ce côté-là et j'estime que c'est pas normal de se faire virer parce qu'on est enceinte. Alors après, est-ce que c'est la faute de la boîte? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi, ce que je défends, j'y crois à 100%. Et si c'est la boîte qui paye, c'est la boîte qui paye.
Un petit concert de klaxon.
Ouais. Sympa. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est cool de pouvoir avoir ce genre de dossier. Parfois, c'est pas des dossiers hyper rentables. Parfois, j'ai justement la possibilité aujourd'hui d'avoir des dossiers très rentables qui vont compenser des dossiers que je vais quasiment faire en pro bono, d'endométriose,
ouais.
de violence médicale, au pénal. Et ça, c'est trop bien.
Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que tu as trouvé un équilibre pour pouvoir vraiment faire ce qui te passionne,
ouais.
mais en même temps, sans que ce soit un handicap financier
Exactement.
Ou ce genre de choses.
Exactement.
Et du coup, si je peux me permettre, mais tu m'as dit que j'avais le droit, tu me racontais tout à l'heure en off que... non, mais je trouve ça très intéressant et en vrai, je trouve ça chouette, ça change de ce qu'on peut toujours entendre sur les avocats, etc. Que là, vu que ça tournait très bien, et puis aussi l'avantage d'avoir sa propre structure et de pouvoir s'organiser comme on veut, t'es arrivé à te libérer finalement pas mal de matinées pour... pour faire d'autres choses. Déjà, tu peux nous raconter un peu plus et dire comment ça t'équilibre ça aussi, enfin, à quel point tu penses que c'est important dans, aussi peut-être dans ta manière de pratiquer ton métier d'avocat par la suite, de se garder des temps comme ça.
Ouais, moi, j'ai toujours été assez claire sur le fait que le boulot, ça pouvait pas être ma vie. Et je pense que dans la vie de tout le monde, après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, dans ma vie, c'est pas possible que le travail occupe 100% de l'espace. J'adore ce que je fais. Et pour le coup, j'ai jamais autant aimé ce que je faisais et mon métier que depuis que je suis à mon compte. Donc, je suis contente d'aller au travail. Mais je veux pas que ce soit 100% de ma vie. L'idée, c'est pas de toujours gagner plus. C'est de me dire, j'arrive à un salaire cible qui me permet de vivre bien. Et le reste du temps, si je peux me le libérer pour faire autre chose, donc des activités manuelles, parce que j'adore dessiner, j'adore peindre, tout et n'importe quoi, je veux pouvoir le faire. Et donc, l'idée de recruter aussi, c'est pas forcément de faire toujours plus, c'est de me dire, je peux remettre en place. Là, j'avais essayé de mettre en place une semaine de 4 jours. Là, j'ai eu beaucoup de boulot, surtout avant les vacances, donc j'ai dû recommencer à travailler à 5 jours. Mais l'idée, c'est de me dire, si on est deux, on peut aussi partager le temps. Elle pourrait ne pas bosser le vendredi, moi ne pas bosser le lundi, et avoir du temps pour soi et pour être d'autant plus motivée et productive, parce que moi j'y crois vraiment à 100%. Je pense que la semaine de 4 jours, ça te permet d'être très productif quand t'es au travail, parce que t'es vraiment là que pour ça et tu sais que c'est pas tu serres les dents toute la semaine pour avoir ton week-end. C'est j'aime ce que je fais au travail et je sais que c'est pas une plaie et je sais que j'ai mon temps libre aussi. Et donc là, moi, je me suis rendu compte que ça marchait très bien et que j'avais possibilité. Au mois d'octobre, ça s'est un peu calmé. J'ai eu cette possibilité de lever le pied. Je l'ai fait. Je me suis pas dit, je vais prendre ces matinées-là pour développer encore plus. Ouais. Je sais faire. Je me suis dit, tant mieux. Là, je lève le pied, j'en profite. J'ai eu une fin de premier semestre difficile avec beaucoup de travail. J'ai beaucoup d'audiences qui arrivent là en novembre-décembre. Donc octobre, une matinée sur deux, je peignais, je me baladais. J'ai pris beaucoup de temps pour moi, beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de faire, notamment le week-end, parce que le week-end, mine de rien, on voit les amis, on bouge. Ce n'est pas la même chose qu'un lundi.
Ouais, c'est clair. Lundi matin, si tu ne travailles pas, tu n'as pas beaucoup de potes qui sont dans le même cas.
C'est ça, tu es tout seul, tu fais vraiment ce qui te plaît. Ouais. Et moi, ça m'équilibre carrément. Ça me donne d'autant plus envie de continuer à faire ce que je fais comme je le fais. Et quand je suis au travail, je suis d'autant plus contente d'y être que je le suis parce que j'ai choisi et pas parce que pas parce qu'il faut y aller les dents serrées en se disant allez bientôt le samedi quoi.
Non mais je trouve ça chouette et je trouve ça hyper inspirant, mais j'ai trop d'avocats avec lesquels je travaille qui sont en recherche permanente de croissance, de développement. Alors je vais être honnête, moi ça m'arrange vu que je les accompagne là-dessus, tant mieux hein, en soi. Mais avec un peu, une espèce de recherche frénétique de toujours plus sans trop savoir pourquoi, en ayant déjà un niveau de vie qui leur convient totalement, en n'ayant pas une envie folle de construire une méga structure, parce que ça peut être une envie, oui. Et c'est top aussi de vouloir grossir, construire un gros cab et tout, bien sûr, mais il y en a certains chez qui c'est pas du tout le cas, mais ils ont du mal à s'arrêter et à se dire stop, là, comme tu le disais, j'ai atteint ma rémunération cible qui me permet d'être heureux, faisant en sorte de gagner en productivité et puis de pouvoir kiffer à côté. Et je trouve ça chouette d'oser le faire. Et chez les avocats, admettre qu'on aime bien ne pas faire que travailler. Dans les faits, c'est le cas. Mais oser le dire sur la place publique, je trouve ça chouette.
Mais surtout qu'en fait, je pense que c'est encore la continuité de cette fibre bonne élève qu'on va tous avoir, se dire on fait S, on fait les gros câbles. C'est dur, et avec Chloé, on a eu du mal à se dire, j'ai le droit d'avoir un jeudi matin que je passe pas à développer. Si j'ai l'occasion d'avoir un jeudi matin, j'ai le droit de me dire je fais autre chose. Et ça, en termes de culpabilisation, c'est très dur au début.
Ouais.
Se dire, mince, je viens de lancer mon câble, je devrais être en train de me battre à 100%.
Ouais, mais en fait, ça marche, ça roule.
C'est ça, voilà. Et même moi, il a fallu me rééduquer à me dire, j'ai le droit de profiter un peu et... Tant que ça marche et que je ne suis pas en difficulté et que je continue d'avoir des clients, mine de rien, moi j'ai la chance d'avoir une prescription d'anciens clients qui me recommandent et confrères consoeurs qui fait que je n'ai pas forcément à énormément développer sur les réseaux. Je me dis, profitons-en aussi. C'est cool de pouvoir assumer le fait de ne pas toujours travailler et faire des trucs pour moi. Je suis contente.
Trop bien. Bon, écoute. Merci beaucoup de m'avoir raconté ce passionnant parcours. Est-ce que tu aurais un petit message, soit pour les jeunes avocats ou les étudiants qui se destinent à cette profession? Ou pour les vieux avocats qui devraient peut-être changer deux, trois choses dans le présent.
Alors, plutôt pour les jeunes, je pense. Parce que les vieux, malheureusement, je crois qu'on les fera plus changer d'avis. Mais les jeunes, j'ai vraiment envie de les inciter, mais je crois que ça se fait de plus en plus à vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas marrant de faire un métier qui te plaît pas vraiment parce que c'est prestigieux. Je pense qu'il est temps, et le Covid a pas mal changé un peu la donne, mais c'est pas mal de faire un truc qu'on a vraiment envie de faire. Et tous ces jeunes avocats qui ont envie de faire des petites structures ou qui ont envie de faire du droit un peu plus engagé et qui osent pas, je pense qu'il faut oser, parce qu'il y en a plein, des structures qui proposent des choses comme ça, qui sont réglo, qui sont sérieuses et qui permettent de faire des trucs vraiment intéressants. Et je pense qu'il faut pas hésiter. Je le vois, hein, même là, quand j'ai cherché à recruter... J'ai eu des profils que je pense que j'aurais pas eu il y a 3 ans. De gens qui, des super profils qui...
Oui, qui cherchent un peu plus de sens, ouais, et d'engagement.
Pour leur première collab. Et pour le coup, ça m'a surprise parce que je m'attendais vraiment à avoir des difficultés à recruter. Et je pense que les générations changent et que d'elles-mêmes, elles comprennent qu'aujourd'hui, c'est très bien de vouloir faire des gros cabinets. Et moi, j'ai voulu le faire et je pense que c'est très bien de le faire. Mais c'est très bien aussi si on n'en a pas envie de pas se forcer.
Oui, c'est pas l'unique voie vers le succès.
Non, parce que ça dégoûte. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont raccroché la robe à cause de ça.
Moi aussi.
Donc, je pense que quand c'est pas un truc qui plaît, il faut pas se forcer. Il y a plein d'autres voies super bien et le prestige, c'est quelque chose de très relatif. Donc, faut s'écouter.
Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Laura.
Avec plaisir, merci à toi.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.